Merci, Madame le maire. Avant de dérouler la présentation, je voudrais faire un propos liminaire pour vous dire que cette année 2022 s'est rappelée à notre mauvais souvenir les impacts que l'inflation peut avoir sur les économies en général. La dernière vague inflationniste datait des années 73 et 79. Pour certains, nous étions déjà nés, mais en tout cas sûrement très jeunes. Et depuis le tournant de la rigueur de 83, bien, nos économies n'avaient pas connu de situation inflationniste. Avec un bouclier que je tiens à saluer ce soir, qui est le bouclier de la création de l'euro, qui nous a permis d'une part de restaurer et de stabiliser nos économies, puis aussi d'arriver à absorber le choc, premier choc économique de 2008, qui est la crise des subprimes. Rappelez-vous qu'à l'époque, Mario Draghi, président de la BCE, il n'était pas président du Conseil italien, mais président de la BCE, avait utilisé ces mots « whatever it takes », ça veut dire que le soutien de l'euro avait permis de stabiliser nos économies. Ça avait été le prix à payer pour nos États d'un endettement très fort, puisque nous étions passés d'à peu près 60% du taux d'endettement de l'État à l'époque avant crise des subprimes, à peu près 80%, soit 20 points de plus. Et nous sommes rentrés dans cette nouvelle crise avec des finances qui étaient moins saines en termes de l'État que ce que ça a été précédemment. Et vous allez voir que le niveau d'endettement a explosé. Donc, nous subissons de plein fouet maintenant dans notre quotidien, nous bien sûr ici élus, mais aussi tous les habitants de France, les effets de l'inflation sur l'économie. Il se répercute sur tous les niveaux et il se répercute bien sûr, comme vient de dire Madame le maire, sur l'économie des collectivités locales et donc sur notre commune de Rambouillet. Nous sommes rentrés dans cette crise inflationniste avec des situations financières très saines de notre commune. Vous allez le voir, nos ratios 2021 et 2022 étaient tout à fait excellents. Et je dirais tant mieux, puisque le choc, vous allez voir, est très rude. Et tant mieux que nous soyons rentrés dans cette situation avec la situation financière que l'on a connue, que vous avez délibérée sur les mandats précédents. Monsieur Lefebvre, on peut dérouler la première page. Merci. Pour les indicateurs économiques qui vont sur 2023. Alors, nous avons connu une croissance de 2,7% du PIB en moyenne annuelle sur 2022. C'est les effets de relance qui ont eu lieu post-Covid. Et il va y avoir un très gros coup de frein en 2023 qui est tout simplement le fait que les acteurs économiques anticipent le niveau d'inflation. Les ménages font considérablement attention à leurs dépenses simplement pour absorber le choc inflationniste et que le relèvement des taux directeurs, dont on va parler tout à l'heure, ralentit aussi mécaniquement les anticipations des entreprises. Donc la croissance prévisible sur 2023 va s'arrêter à 1% pour l'instant. Malgré cette croissance faible, 1%, nous aurons un déficit public qui va s'établir autour de 5% du produit intérieur brut. Je l'évoquais tout à l'heure, nous sommes rentrés dans la crise avec un taux d'endettement par rapport au PIB qui était un petit peu inférieur à 100%. Et nous avons, pour subir le choc de Covid, largement emprunté sur les marchés financiers nationaux et mondiaux pour boucler le budget de l'État et le plan de relance. Donc nos taux d'endettement de l'État va s'établir en prévisionnel à 111,2% du produit intérieur brut en 2023. Ça nous amène ici, je ferai une parenthèse, pour vous dire que c'est la première fois de l'histoire de notre pays où dans le fonctionnement de l'État, dans le budget de l'État, la première dépense devant toute autre deviennent les charges d'intérêt. Et les dépenses de l'État 2023, première dépense, ce sera les charges d'intérêt devant le budget de l'éducation nationale. C'est la première fois que nous rentrons dans ce système-là. Parce qu'un taux d'endettement à 111,2% du PIB, quand vous avez des taux qui commencent à monter vers 2, 5, 3 et plus, bien mécaniquement, ça fait monter la charge de la dette. Et donc, depuis, historiquement, cette année, nous franchissons ce cap-là. Ça ne présume pas des mesures que l'État va nous demander de faire, mais rappelez-vous qu'en 2008, à la fin de la crise des subprimes, nous avons eu un effort considérable des collectivités locales pour rétablir les finances publiques. Et pour la ville de Rambouillet, c'était plusieurs millions de pertes, puisque notre dotation globale de fonctionnement a perdu près de 3 millions tous les ans. Entre 2008 et maintenant. Voilà la situation dans laquelle nous évoluons. Pour l'inflation 2022, elle était de 5,3% en moyenne, proche des 6% en glissement annuel, et de 1,5% en 2021. Elle s'établira autour de 5% probablement en 2023 également. La Banque Centrale Européenne, pour calmer l'inflation, augmente les taux. Pour l'instant, on est à 2,4. Je vous rappelle que la Fed... Les Américains sont près de 5,4 en prévisionnel. Donc la tendancielle des taux va forcément augmenter pour ralentir le problème inflationniste. C'est l'instrument de la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire que pour l'économie et pour nos taux à nous, eh bien, les taux vont augmenter inéluctablement sur les mois et les années qui viennent. Voilà pour les principaux indicateurs économiques. On peut passer à la diapositive suivante. Pour revenir sur un aspect un peu moins macro, pour les collectivités locales, vous savez que l'État nous verse une très grosse enveloppe qui s'appelle la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Le gouvernement, dans son projet de loi de finances, a considéré qu'il fallait la stabiliser pour soutenir les collectivités locales à 26,6 milliards d'euros. À périmètre courant, elle est en légère diminution, mais ça ne va très marginalement impacter notre commune. Et puis, vous savez, comme tous comme moi, que nous sommes en queue de comète de la réforme de la fiscalité locale, puisque cette année, voyons le dernier terme de disparition de la taxe d'habitation pour l'ensemble des ménages franciliens. Compte tenu de la catégorie socio-économique moyenne, la CSP moyenne de notre territoire, près de 40% des contribuables vont voir une disparition de leur dernier tiers de TCH cette année. Voilà pour le contexte. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va regarder un peu plus précisément quels sont les impacts sur notre commune de ce que Madame le maire vient de vous rappeler en propos introductif. Pour les dépenses de fonctionnement, sur l'effet de l'inflation des coûts de l'énergie, vous constaterez comme moi qu'en 2021, nous avions un budget de charges à caractère général de 8,6 millions d'euros. Nous avons subi le choc inflationniste en 2022 avec une augmentation de 2 millions d'euros de nos charges à caractère général, 2,3 millions d'euros. Et encore une fois cette année, nous aurons encore une augmentation de près de 2 millions d'euros des charges à caractère général. Voilà ce que nous avons comme anticipation et avec une relative diminution sur les années suivantes. Mais comme on l'évoquait il y a quelques minutes avec quelques-uns d'entre nous, même si le conflit ukrainien s'arrête le plus vite possible, et je pense qu'on le souhaite tous, il est peu probable que cela engendre une diminution flagrante des coûts de l'énergie pour différents facteurs géopolitiques que j'éviterai ce soir. Donc on a été prudent sur la diminution des dépenses parce qu'on n'atteindra pas la situation avant la crise énergétique. Sur la diapositive suivante, vous avez quelque chose qui est un peu plus explicatif pour savoir tout ce que nous avons mis en œuvre pour réagir à cette crise. En 2021, nous avions, vous voyez l'histogramme de gauche, 8,6 millions d'euros de charges à caractère général. Elles sont un peu retraitées par rapport au tableau d'avant. Nous avons voté un budget ensemble 2022 de 9 millions, enfin pour ceux qui l'ont voté, de 9,7 millions d'euros, excusez-moi. Et vous voyez dans le bas de l'histogramme violet entre 2022 budget primitif et 2022 compte administratif, vous voyez comme moi que les croissances des charges a été de 1 million d'euros par rapport à ce que nous avions budgété. Et dès la fin du deuxième trimestre 2022, Madame le maire a demandé à l'ensemble des services de la municipalité, de la commune, de faire énormément d'efforts sur les charges à caractère général pour contenir la croissance des dépenses. Des efforts, évidemment, en termes de chauffage, en termes d'isolation, en termes de fonctionnement des services. Bref, tout le monde a été mobilisé pour contenir l'évolution de ces dépenses. Et nous arrivons, vous le voyez comme moi, malgré cette augmentation d'un million d'euros des charges d'énergie, à quasiment contenir le budget à ce qu'il avait été voté au budget primitif. Donc c'est un effort tout à fait considérable qui a été mené sur la conduite des élus et des services. Néanmoins, nous avons fait tous ces efforts, nous ne pouvions pas aller plus loin, parce qu'après c'était une décision clairement affichée de Mme le maire de ne pas réduire le niveau de service public. Et donc là, 9,7 millions d'euros, c'est avec service public constant, avec la qualité constante. La croissance des charges entre 2022 et 2023 du coût de l'énergie, vous la lisez comme moi, nous passerons de 2,3 millions à 4 millions d'euros sur les charges d'énergie. Nous avons, lors des réunions d'arbitrage budgétaire, demandé aux services de faire une économie de 10% entre ce qui avait été prévu en 2022 et ce qui a été budgété en 2023. Ils ont tous joué le jeu, voire certains plus que les 10%. Tout le monde a été très vertueux pour aller chercher ces économies et contenir la croissance des charges à caractère général. Mais néanmoins, malgré tous ces efforts, nous devons assumer l'augmentation des contrats qui nous lient en termes de délégation de services publics. C'est en partant du haut de l'histogramme rose, ici, vous voyez ce que montre M. Lefebvre. Nous avons évidemment le coût de l'inflation sur l'ensemble des charges, puisque cette inflation de 5%, parfois sur certains secteurs, c'est bien plus que 5%, nous devons l'assumer. Et nous avons volontairement, et c'est une volonté politique aussi, maintenu un certain nombre d'événements sur notre commune, sur notre année 2023, pour ne pas rentrer dans une logique de paupérisation. Nous continuons à faire en sorte que notre commune fonctionne correctement et rende les services attendus par les Rambolitains. Et donc, nous devons budgéter 12,9 millions d'euros sur les charges à caractère général au prochain budget qu'on vous présentera dans quelques semaines maintenant, dans un mois à peu près. Voilà pour les charges à caractère général. Pour les charges de personnel, en 2021, nous avions 19,4 millions d'euros de charges de personnel, 20,7 millions d'euros en 2022 et 21,9 millions d'euros en 2023. Vous avez en partie base de la présentation les évolutions des effectifs, en titulaires et stagiaires de 377 à 372 et de contractuels à 109 à 123. Si on fait la même progressivité, donc la même présentation pour les charges à caractère général, c'est des diapositives suivantes, vous avez l'évolution entre 2021 et 2023. Entre notre arrivée ici aux responsabilités et l'année 2021, un certain nombre de recrutements ont été décidés d'être faits pour pouvoir renforcer et réorganiser les services. Et ces recrutements ayant eu lieu au cours de l'année 2021, ils ont eu un effet en année pleine en 2022. Dès que nous avons constaté la crise qui est arrivée en 2022, Madame le maire a décidé de geler l'ensemble des recrutements, mais le tendanciel étant déjà engagé entre les embauches qui ont été faites en cours de 2021 et 2022, entre 2021 en année pleine 2022, et les décisions que l'État a faites de revalorisation du SMIC, d'augmentation du point d'indice de 3,5%. Et donc mécaniquement, ça a engendré une augmentation des charges. Cette augmentation de 3,5%, elle a eu lieu en cours d'exercice, en mi-année, en gros, 2022. Et donc, elle a un impact en année pleine 2023. Et donc, tous ces facteurs qui s'imposent à nous, sur lesquels nous n'avons pas de choix de modifier ces indicateurs, et c'est très bien, c'est le cas de la fonction publique territoriale, nécessitent que nous budgétions à peu près 22 millions d'euros de charges de personnel en 2023, avec une réorganisation des services qui est optimisée à chaque fois que des départs se font, des départs en retraite et autres. Une réflexion est menée pour voir comment optimiser les dépenses. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, je résume, 12,7 millions d'euros en 2023 pour les charges à caractère général, 21,9 millions d'euros pour les charges de personnel. Pour les autres dépenses, les autres charges de gestion courante, excusez-moi, Madame le maire a dit tout à l'heure, le budget des associations est globalement maintenu à équivalent 2022, avec à l'intérieur une conservation du budget de la subvention à la MJC, à l'usine à chapeau, et une conservation également du Centre intercommunal d'action sociale, le CCS. La subvention est maintenue à 507 000 euros. Évidemment, si au cours de l'exercice 2023, nous constatons que l'action sociale, en tout cas les missions du CCAS, nécessitent d'être abondées budgétairement parce que la situation de difficulté de certains de nos rembolitains rend nécessaire son abondement, nous le ferons. Nous serons en capacité d'abonder ce budget si besoin. Et puis, on reparlera au moment du budget dans 3 semaines sur le sujet du parking et du délégataire en termes de reversement des recettes encaissées. Voilà pour cette diapositive. Le fonds de péréquation intercommunale, c'est une péréquation qui se fait entre les collectivités dites riches et les collectivités dites pauvres. Nous faisons partie des collectivités dites riches et nous contribuons à hauteur de 1 million d'euros par an à ce fonds de péréquation. Il n'est pas modifié entre 22 et 23, il est maintenu au même niveau. Nous avons donc décrit l'ensemble des dépenses. Maintenant, on va voir le sujet des recettes de fonctionnement. Pour les recettes de fonctionnement, le chapitre 70, ce sont tous les produits des services. Ils ne connaissent pas à ce jour un retour à la normale, c'est-à-dire que l'impact du Covid n'est pas complètement annulé. Vous avez vu qu'on avait 3,2 millions en 2019, seulement 1,9 millions en 2020, et nous prévoyons 2,3 millions en 2023, parce qu'un certain nombre d'habitudes ont été perdues, de changements d'usage des services municipaux, et donc nous sommes assez prudents sur ces recettes. Évidemment, si elles sont plus dynamiques que prévues, ça ne viendra qu'à améliorer nos ratios. Donc, pas de levier là-dessus. Alors, on va rester sur cette diapositive, Monsieur Lefebvre, pour vous dire que Madame le maire souhaite clairement que les utilisateurs des services municipaux participent à l'augmentation des charges. Et donc, ces tarifs seront, au cours de l'exercice, probablement à la fin de ce premier semestre 2023, révisés pour tenir compte de l'inflation, parce que, par équité, les utilisateurs doivent eux aussi prendre en charge une quote-part de l'inflation qu'on subit partout. Pour le chapitre 73, l'attribution de compensation, je vous rappelle qu'elle est stabilisée. Elle a été stabilisée au moment de la création de la communauté de communes en 2004, début 2004, et qu'elle a connu un certain nombre de diminutions en fonction des transferts de compétences qui ont eu lieu, conservatoire, piscine des fontaines, office de tourisme. Je rappelle que dans le principe, une fois que le transfert est fait à l'agglomération, la croissance des charges de l'agglomération n'est pas répercutée sur la commune. Le niveau de dépenses est figé à la date du transfert, pour la piscine des Fontaines, c'est en 2006. Et donc, toute la croissance des charges énergétiques du centre aquatique des Fontaines est portée par l'agglomération, n'est plus portée par la commune. C'est le principe même des transferts de compétences. Donc, cette attribution de compensation est stable à 4,7 millions d'euros cette année. Pour les droits de mutation, ça, c'est donc ce qu'on appelle improprement les frais de notaire lorsqu'il y a des ventes ou des acquisitions de fonciers sur notre commune. Ils ont connu, bien sûr, une grande croissance, vous le constaterez comme moi, entre 2016 et 2021, entre près de 600 000 euros supplémentaires. Ça, c'est lié à la dynamique du marché de l'immobilier. À chaque fois qu'il y a des transactions, eh bien, ça vient augmenter ces droits de mutation. On est prudentiel sur les années suivantes, donc on les a mises en diminution parce que notre territoire est attractif, donc on connaîtra encore un apport pour les gens viendront habiter chez nous, mais avec une dynamique qu'on estime moins, évidemment, moins forte à cause des problématiques de taux d'intérêt. La dotation forfaitaire, la dotation globale de fonctionnement, je vous ai dit, est maintenue stable au niveau de l'État, mais nous, par des effets, encore une fois, de communes riches, communes pauvres, je le résume comme ça, nous envisageons une baisse de 130 000 euros de la dotation forfaitaire, la DGF. Je vous rappelle que sur 2014-2022, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après la crise des subprimes, l'État a coupé très fort dans les dotations globales de fonctionnement de toutes les communes de France. Et pour nous, Ville de Rambouillet, en cumulé, c'est 20 millions d'euros de recettes perdues, cet épisode. Il y a certaines communes qui sont en DGF négative. Et dans quelle absurdité, des fois, on se trouve. Les autres produits de gestion courante, ce sont les produits des services. Je pense aux fermages Sodexo, je pense au loyer du relais du château, le Hôtel Mercure qui est juste à côté. Celles-ci sont, vous voyez-vous, prévues stables en montant sur toutes les années qui viennent. Il n'y a pas d'inflation sur les tarifs pour être prudent. Et normalement, ces produits de gestion courante devront augmenter légèrement sur les années qui viennent. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut passer, monsieur. Voilà. La structure de nos comptes est la suivante. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, je n'apprendrai rien. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, cher Marion, c'est peut-être un peu plus nouveau. Nous avons sur partie haute la partie section de fonctionnement de notre ville. J'ai décrit en début la partie en haut à gauche des dépenses de fonctionnement. L'évaluation des dépenses des services, les autres dépenses, les frais financiers. Sur la partie droite, les recettes, les produits de fonctionnement et les dotations. Et pour la bonne gestion de notre commune, nous devons maintenir un niveau d'autofinancement souhaité autour de 10% d'épargne brute. On le verra tout à l'heure dans les tableaux de pilotage. Compte tenu de ce qu'on vient de vous exposer en termes de croissance des dépenses, il s'avère que pour avoir un niveau d'autofinancement acceptable, nous avons l'obligation de demander un supplément fiscal. C'est la partie rouge qui est ici pour combler le budget, pour équilibrer cette section de fonctionnement. Et c'est une obligation. Vous savez que les collectivités locales n'ont pas le droit d'emprunter pour leur fonctionnement, contrairement à l'État. Et nous avons pour obligation d'équilibrer cette première partie avant de parler de la partie investissement. Donc pour équilibrer, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un premier levier par équité politique qui sera actionné. C'est donc la révision des tarifs municipaux, mais on y viendra en temps utile. Et il nous reste un autre levier, c'est la révision de la fiscalité de notre commune. Je décrirai à part la partie investissement plus tard, monsieur Lefebvre. On peut passer à la diapositive suivante. Pour la fiscalité, nous n'avons pas le choix. Cette année, nous sommes obligés de modifier les taux de fiscalité de notre commune. Vous avez ici la progression de nos taux depuis 2014. Je vous invite à aller directement en 2020. En 2020, nous étions à 18,01% de taxes d'habitation, 24,11% de foncier bâti, 115,96% de foncier non bâti, la CFE étant, elle, maintenant perçue par Rambouillet Territoire. Nous avions pris l'engagement de ne pas modifier les taux d'imposition sur le mandat. C'est pour ça qu'en 2021 et 2022, vous avez des taux identiques. Mais maintenant, par esprit de responsabilité, parce qu'il est de notre devoir, obligé par la loi, de faire en sorte que notre section de fonctionnement soit équilibrée, nous sommes obligés, pour ces raisons que je viens de dire, après toutes les économies réalisées, de modifier les taux, tels que vous voyez ici, soit un taux de foncier bâti à 21,43%, pardonnez-moi, un taux de taxe d'habitation à 21,43% qui s'appliquera sur les résidences secondaires, puisque maintenant la taxe d'habitation n'est plus perçue par les résidences principales, un taux de foncier bâti à 42,47% et un taux de foncier non bâti à 137,99%. Je redis, après toutes les économies réalisées, après l'optimisation de nos dépenses, après l'optimisation de nos recettes, nous sommes dans l'obligation d'aller modifier ces taux pour restaurer nos ratios et faire en sorte que notre commune continue à fonctionner correctement. Voilà pour la partie fiscalité. Lorsqu'on applique les taux sur ces bases, tel que vous venez de le montrer, vous avez vu qu'entre 2023 par rapport à 2022, il y a la revalorisation des bases de foncier bâti de 7% qui est indexée, bien sûr, sur le produit. Et donc l'addition de cette revalorisation des bases plus les taux que nous vous proposons, que nous voterons dans 3 semaines maintenant, amène une augmentation du produit fiscal de 5,9 millions d'euros. Et vous allez voir tout à l'heure comment cela se ventile sur la partie section d'investissement. Les recettes d'investissement. Alors, on va revenir, Monsieur Lefebvre, au tableau explicatif un peu synoptique, si vous le voulez bien. Oui, on revient un peu en arrière. Voilà, encore une fois. Voilà. Donc là, on vient, parce que je viens de vous annoncer, équilibrer la partie haute du tableau. L'autofinancement que nous venons de restaurer, nous allons pouvoir l'emmener en investissement pour financer nos dépenses d'investissement. On va voir qu'on va aussi nécessiter le recours à l'emprunt. Nous allons bénéficier de subventions d'investissement et du fameux fonds de compensation de la TVA, FCTVA, pour rembourser en priorité la dette, la partie violette, et aussi, bien sûr, les investissements qu'on va vous décrire. On peut passer, Monsieur Lefebvre, merci. Donc, les recettes d'investissement. Nous allons agir sur 3 leviers, 4 leviers même. Le premier levier, c'est le prélèvement sur notre fonds de roulement. Nous avions des réserves qui étaient, vous allez le voir à la fin sur le tableau de pilotage, à 19,6 millions d'euros en 2021. Nous allons diminuer nos réserves de 6,6 millions d'euros pour retomber à un niveau moyen autour de 9 millions d'euros tous les ans qui, on le verra en provisionnel de plan pluriannuel, est le bon niveau de fonds de roulement nécessaire pour absorber les écarts entre les factures et les recettes. La capacité de financement, vous la voyez comme moi, s'élève à 4,9 millions d'euros en 2022, 11,7 millions d'euros en 2023 par les facteurs que je vais vous décrire ensuite, et puis je vous laisse lire comme moi, 9 millions en 2024, 8 millions en 2025 et 11,4 millions en 2026. Nous allons donc solliciter entre 2021 et 2025 des investissements et des recettes à hauteur de 50,5 millions d'euros. 11,9 millions d'euros va provenir de cette épargne nette, en fait, de ce que l'on vient de restaurer par la modification des taux, 10,3% du FCTVA, 18 millions d'euros d'emprunt, 4,3 millions d'euros de subventions et une diminution du fonds de roulement de 6 millions d'euros. On va le revoir tout à l'heure sur le tableau de pilotage. Cette répartition des financements est tout à fait conforme à ce qu'on a l'habitude de voir sur des collectivités. Il n'y a pas d'élément particulier à signifier. Avec donc ces efforts demandés et ces recettes d'investissement, qu'allons-nous faire? Le montant moyen des investissements, vous voyez comme moi, était de 7,7 millions d'euros par an entre 2015 et 2022. En 2022, nous allons réaliser 11,5 millions d'euros, non compris les restes à réaliser, de 6,4 millions d'euros. Et nouvelles dépenses d'équipement 2023, 9,3 millions d'euros plus 6,4 millions de restes à réaliser, soit une estimation totale d'investissement de 15,7 millions d'euros. Vous l'avez dans le tableau en bas de diapositive. Comment se ventilent ces dépenses d'investissement? Alors, tout d'abord, nous avons eu des réunions d'arbitrage où Mme le maire a fait un certain nombre de décalages. De décalages de tous les investissements qui n'étaient pas absolument prioritaires. Mais nous avons maintenu deux choses. De lignes directrices dans ces investissements. Le premier, c'est ceux qui étaient déjà engagés de manière irréversible, sur lesquels revenir en arrière aurait été une absurdité, puisque les travaux étaient en cours. Et le deuxième volet, et je vous dire comme moi, c'est aussi le volet des investissements qui sont liés aux économies d'énergie. Nous avons maintenu dans notre budget d'investissement tous les investissements qui sont vertueux en termes environnementaux. On va le voir après dans le tableau des dépenses, mais vous avez ici la ligne des 17 programmes de travaux qui sont concernés par ces APCP, ce qu'on appelle autorisation de programme, crédit de paiement. Alors, dans le tableau suivant, nous avons la liste. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible. Il faut avoir de bons yeux, même si on a changé l'équipement et qu'on a mis un grand écran. Voilà. Et même pour moi, c'est un peu compliqué, mais je pense que j'y arrive encore. Voilà. C'est rassurant pour un pilote, voilà.
Monsieur Gourland.
Le quartier de la gare, donc, est maintenu, mais décalé dans son APCP, puisque l'essentiel des investissements auront lieu plutôt sur les 2025 et 2026, donc 100 000 euros cette année pour le quartier de la gare pour poursuivre les études. Nous avons maintenu, compte tenu de l'état du patrimoine, un plan école à 500 000 euros par an, tous les ans, entre 2023 et 2026. Les travaux de l'école élémentaire dite Foch-Gambetta, qui ont été lancés sur le cours de l'exercice, vont être poursuivis pour 2 590 000 euros. Nous avons sanctuarisé le développement des circulations douces en maintenant le budget à 400 000 euros par an, malgré le contexte, sur les 4 années qui viennent. Le plan voirie et végétalisation, qui est aussi un accompagnement indéniable sur le sujet de réchauffement climatique, est maintenu à 500 000 euros par an. Le plan accessibilité, lui, a été réduit cette année et puis va être par vague, continue à être développé. L'investissement sur Claye Clairbois qui a été lancé va être poursuivi sur l'année 2023 et 2024 et évidemment va permettre d'accueillir nos enfants dans des conditions tout à fait extrêmement satisfaisantes et aussi très économes en énergie. Nous avons évidemment sanctuarisé le sujet de rénovation de l'éclairage public pour près de 4,5 millions d'euros sur 2 années. C'est évidemment une notion d'économie d'énergie puisque nous passons tout en LED et nous avons un retour sur investissement autour de un peu inférieur à 13 ans, rappelons-nous notre délibération, avec en plus un financement par le dispositif d'Action Cœur de Ville qui nous permet d'avoir un taux de financement à 0%. Quand on voit que les taux maintenant sont autour de 2,5-3, c'est une très belle performance. Et nous avons aussi sanctuarisé le budget participatif à hauteur de 200 000 euros par an avec un petit bonus sur 2023 puisque c'était un reliquat de ce qui n'avait pas été fait sur les années antérieures. Enfin, vous lirez comme moi qu'il y a une dernière ligne cinéma avec 487 000 euros par an et puis 300 000 euros en 2024. Il y a 187 000 euros sur la dépense 2023 qui est liée donc aux équipements du cinéma qui va ouvrir dans quelques semaines maintenant et 2 x 300 000 euros de manière à ce qu'on puisse répondre à une éventuelle demande de subvention de la commune pour pouvoir réaliser ce cinéma de centre-ville que nous poursuivons et que nous mènerons à bien, c'est absolument certain. Donc nous sommes prêts à aider l'installation du cinéma en centre-ville et temporairement équiper la lanterne. Hormis ces APCP, autorisation programme crédit de paiement, qui permet de sanctuariser les sommes, nous allons continuer à faire l'investissement dit courant de notre commune pour maintenir le patrimoine. Je vous ferai grâce de la lecture de toutes ces lignes, puisque vous les avez dans le document qui vous a été transmis, et ça va être largement rappelé lors du vote du budget, mais 1,7 million d'euros sur les investissements courants, auxquels on rajoute la partie des services techniques à hauteur d'un million cinq. Il faut savoir que l'ensemble de ces services et les élus concernés ont eux aussi fait un effort sur l'investissement puisque ces montants sont largement en baisse par rapport aux années antérieures pour pouvoir assumer la crise. Et donc, en bilan, et je reviens sur le montant qui vous a été annoncé, 9,3 millions de crédits nouveaux cette année par tout ce que je viens de vous décrire, auxquels s'ajoutent les restes à réaliser, ce qui a été engagé sur 2022 et qui va être payé en 2023, soit 15,7 millions d'euros. Voilà pour la partie dépenses d'investissement. Alors, vous avez maintenant ici le tableau de pilotage. Excusez-moi, ce n'est pas un mauvais jeu de mots, mais c'était absolument nécessaire d'avoir ça dans nos collectivités. Et vous avez aussi l'évolution de nos prospectives financières. Je vous invite à vous arrêter sur les deux lignes qu'on appelle épargne brute, épargne nette, qui vous montrent dans quelle situation nous nous trouvions. La partie épargne brute, donc, c'est la différence entre les dépenses et les recettes. C'est-à-dire ce que nous dégageons tous les ans pour l'investissement. Nous avions en 2021 dégagé 6 677 000 euros. 2022, 3,8 millions d'euros. Vous voyez que là, on subit à plein l'évolution de la crise. Et si on ne faisait rien, on rentrait en territoire négatif. Et la ligne suivante, c'est l'épargne nette. Et vous savez que de cette épargne brute, la première dépense obligatoire, c'est de rembourser le capital de la dette. Et après, ce qui reste, c'est pour les investissements. Et vous voyez qu'en 2022, notre épargne brute est à 3,8 millions, mais l'endettement qui est à rembourser nous a amené à 695 000 euros par an d'investissement, c'est-à-dire plus de capacité d'investir. Nous devions réagir. Et c'est pour cette raison essentielle que nous avons donc modifié le taux d'imposition. Pour vous le voyez en 2023, revenir à un taux d'épargne brute qui sera de 5,3 millions, donc pas aussi haut que ce qu'on a connu en 2021, mais qui nous permet d'avoir une épargne nette de 2,2 millions d'euros et en tendanciel d'avoir une épargne nette, donc ce qui nous reste pour investir autour de 2,5 millions, 500 000 euros en moyenne sur les exercices 2023, 2024, 2025. En maintenance ratio, ça nous permet d'avoir un programme d'investissement, c'est la ligne suivante, de 15,7 millions, je viens de le dire, en 2023, 8,9 millions en 2024 et 7,9 millions en 2025, en prélevant sur nos excédents global clôture, c'est la ligne suivante, nous avions dans notre trésorerie, si je puis dire, c'est pas très juste, mais c'est à peu près ça, 19,7 millions en 2021 et 9 millions en 2023. C'est de bonne gestion. 19 millions d'euros d'excédent global de clôture est trop élevé pour une commune comme la nôtre. Mais nous avions ces 19 millions en 2021, non pas par, encore une fois, par volonté de thésauriser, mais parce que nous savions que nous avions des investissements. Donc c'est toujours, encore une fois, une lecture pluriannuelle qui permet de comprendre les tendances. Et pour l'emprunt, eh bien, vous voyez comme moi qu'en 2022, nous avions sollicité 2 millions d'euros d'emprunt. Nous avons besoin pour les investissements de solliciter 6,7 millions en 2023 et puis ensuite 2024-2025 un peu moins. La capacité de désendettement, qui est donc un des éléments majeurs, c'est-à-dire comment on quantifie, si vous voulez, la bonne santé financière, nous avons toujours une bonne santé financière entre 2018 et 2021. Nous étions à 6, 5, 4, 6, 5, 7. En une année, on passe de 5,7 à 9,5. Donc là, on arrive à tangenter un seuil d'alerte. Et donc, par la réaction que nous mettons en place, on redescend à 7,6, puis ensuite autour de 7, puis 6 en 2025. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que finalement, l'effort que nous demandons nous permette de revenir dans une situation financière qui était celle que nous avons connue antérieurement et qui nous a permis d'affronter la crise dans une situation financière finalement très acceptable et on est en capacité de réagir. Pour terminer, je présenterai le sujet de l'endette. La dette, et c'est la dernière diapositive, pour dire que notre dette est complètement maîtrisée. On avait un encours de dette de 38,1 millions d'euros en 2021. Nous atterrirons à 39,5 millions d'euros en 2025. Nous n'avons aucun risque sur la dette. 100% de la dette est classée 1A selon la charte Gisler. 94,5% à taux fixe, 5,5% à taux variable. Donc même si les taux augmentent, vous voyez qu'on est extrêmement faiblement exposé au sujet de l'augmentation des taux. Et on termine par ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire le délai de désendettement. Vous voyez qu'on revient en territoire tout à fait positif, en tout cas tout à fait sain, dès l'année prochaine et les années suivantes. Donc pour conclure, mesdames, messieurs, ce budget est un budget de responsabilité parce que nous assumons tout d'abord le fait de ne pas réduire le service public de notre municipalité, de maintenir sa qualité, tout en ayant fait d'énormes efforts sur les charges de fonctionnement pour au maximum absorber le coût de l'inflation, que nous rentrons dans cette situation inflationniste avec une situation qui est extrêmement saine de notre commune et ça nous permet d'absorber le choc, et que malgré cela, avec les efforts que nous fournissons, nous avons une politique d'investissement ambitieuse, ambitieuse parce que simplement elle vient répondre à l'urgence, c'est-à-dire les économies d'énergie et l'impact environnemental de notre patrimoine. Donc c'est un budget tout à fait responsable que nous assumons ici et que nous vous présentons et que nous vous présenterons au vote au mois d'avril.
Merci à vous, Monsieur Gourlan. Avant de céder la parole aux questions, aux réflexions, remercier très sincèrement les services et vous-même, Monsieur Gourlan, pour le temps passé. Merci infiniment à Monsieur Lefebvre, que vous découvrez sans doute, qui est notre directeur financier, et bien sûr ses collaborateurs, qui ont travaillé d'arrache-pied. Je le disais tout à l'heure à la presse, nous n'avons jamais bouclé un budget aussi tardivement. Pourquoi ? Parce que nous avions l'attente de ces fameux prix de l'énergie et que même le syndicat d'énergie lui-même avait du mal à nous donner des chiffres de façon fixe. Merci aussi, je veux le dire ici devant la Direction générale des services, à tous les services, parce que en effet, l'effort que nous leur avons demandé, moins 6% au mois de juin, lorsque nous avons commencé à avoir un prévisionnel sur les frais d'énergie qui commençaient à monter, même si on ne pouvait pas encore les prévoir aussi importants sur la fin d'année, nous avions déjà demandé dès le mois de juin aux services de réduire leurs frais de fonctionnement pour pouvoir faire des économies sur ce fonctionnement en fin d'année, que lorsque ils sont arrivés au niveau des débats des rencontres budgétaires, nous leur avons dit que nous leur demandions 10% d'efforts. Vous dire également que le service financier, quand je dis qu'il a travaillé d'arrache-pied, il a travaillé d'arrache-pied puisqu'il a essayé d'envisager différents scénarios pour permettre de rétablir au mieux les finances de la municipalité et qu'il y avait eu une simulation qui avait été faite à moins 15% sur le budget de fonctionnement. Mais très vite, en fait, quand on a mis en adéquation le moins 15% de fonctionnement et ce que ça a entraîné pour les services, nous avons alors vu que le service public serait alors extrêmement dégradé, voire pour certains compliqué à maintenir. C'est la raison pour laquelle, finalement, nous sommes bien revenus sur cette base de 10%. Donc je tiens ici aussi à remercier infiniment tous les directeurs de services, mes collègues élus qui les ont accompagnés, les directeurs de services, mais également tous les services et tous les collaborateurs de tous les services, parce qu'ils ont entendu cette demande, ils ont vraiment travaillé pour réduire ces frais de fonctionnement en vraie responsabilité d'agents du service public et avec cette volonté vissée au cœur de pouvoir continuer à servir le public en préservant la qualité de ce service. Donc voilà, Monsieur le Directeur général des services, je tiens vraiment ce soir à le dire ici publiquement. Merci à tous les services. Nous avons la chance ici à Rambouillet de pouvoir travailler avec des services qui sont extrêmement impliqués, qui sont extrêmement responsables dans leur façon de servir le public. Donc merci à eux. Voilà, c'était important de le dire parce que nous savons, nous avons bien conscience avec M. Gourlan au niveau des finances, mais aussi avec tous les collègues élus, des efforts que cela a demandé. Mais chacun a pris ses responsabilités et l'a fait pour justement passer cette vague. Et nous souhaitons vraiment passer ce moment critique tous ensemble et revenir à des jours meilleurs, nous l'espérons. Dire aussi que, comme vous l'a dit M. Gourlan, nous préservons bien sûr des investissements. Les investissements sont principalement tournés, comme je le disais, vers tout ce qui concerne les économies d'énergie. Et puis, bien entendu, les investissements qui sont déjà démarrés. Il est important de préserver des investissements parce que, je rappelle, que les collectivités territoriales représentent tout de même 70% de cette activité économique liée aux investissements et que nous avons aussi la responsabilité de maintenir cette économie. Donc voilà, nous la faisons de façon tout à fait raisonnable. Il y a des projets qui sont déplacés. Je tiens à le dire, comme l'a présenté M. Gourlan, sur le plan pluriannuel d'investissement, ce sont des glissements dans le temps mais en rien des annulations de ces projets. Voilà, ils sont juste déplacés dans le temps. Voilà, c'était les choses sur lesquelles je souhaitais vraiment bien appuyer et puis vous remercier infiniment, encore une fois, de tous ces éléments. Et je dois dire que j'ai vécu au fil de ces changements et que parfois, en une demi-journée, j'avais des nouveaux tableaux, mais c'est ça aussi, la vie d'élu, c'est aussi de se mettre en phase tout de suite et de réagir. Et merci aussi aux services financiers d'avoir pu réagir si vite dès que les nouveaux éléments étaient là. Donc merci infiniment, Monsieur Lefebvre, et je vous laisserai transmettre à vos collaborateurs. Je laisse la parole. Qui veut prendre la parole ? Monsieur Dos Santos.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Madame le maire. À la lecture du rapport d'orientation budgétaire, la gestion assainie de ces dernières années des finances de notre commune fait que nous avons une légère marge de manœuvre en termes d'emprunt. Des investissements peuvent donc être réalisés sans faire peser outre mesure la charge sur les ménages rambouillétains propriétaires de leur résidence principale et tout en maintenant donc les projets pour nos jeunes et pour nos quartiers. Au vu du contexte inflationniste, et bien que nous soyons conscients du poids supporté par les collectivités avec l'augmentation de la facture énergétique que vous avez mentionnée et l'augmentation du point d'indice qui induit donc une hausse de la masse salariale. Malgré ce contexte défavorable, le groupe Génération Rambouillet ne votera pas en l'état l'augmentation de l'imposition de l'ordre de 6,78% que vous proposez. Une augmentation que nous considérons comme particulièrement brutale. Par conséquent, nos préconisations sont les suivantes. Premièrement, un lissage de ces 6,78% sur les trois prochains exercices, 2023, 2024 et 2025. Donc. Deuxièmement, la garantie du maintien des projets de quartier, comme la Maison des Jeunes du Bel Air et l'équipement sportif et culturel de la Louvière. Je viens de comprendre que vous êtes engagé, mais c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Troisièmement, donc, de mettre davantage à contribution les propriétaires de logements secondaires via la taxe sur les résidences secondaires. Par ailleurs, vous avez demandé, Madame le maire, aux services de notre commune de réduire leur budget de fonctionnement de l'ordre de 10%. En tant qu'élu Génération Rambouillet, nous souhaitons participer à cet effort collectif et demandons la réduction de nos indemnités de l'ordre de 10% également. Dans cette période délicate, il est souhaitable que les élus montrent l'exemple.
Alors, je vais laisser M. Gourlan répondre. Malgré tout, vous dire que vous imaginez bien que nous sommes tout à fait conscients de l'effort demandé, M. Dos Santos. M. Gourlan va vous expliquer pourquoi il n'est pas possible de lisser, comme vous dites, sur 2023, 2024, 2025, parce que nous ne sommes pas rentrés dans les chiffres précis. Mais quand je disais dans mon introduction qu'une ville ne peut pas, enfin une collectivité territoriale ne peut pas être en déficit si nous n'avons pas recours à cette fiscalité, nous allons non seulement ne pas pouvoir continuer à avancer, mais continuer à être en déficit. Les économies faites par le fait d'avoir demandé 10% d'économies sur le fonctionnement ne nous permettent pas de combler. Donc nous, non seulement nous devons combler, et je vous rappelle que si en 2021, sur l'épargne nette, nous étions à 3,7 millions, nous descendons à 695 000 en 2022. Si nous ne faisions rien, nous passions à moins 1 800 000. Et lorsque l'on est à moins 1 800 000, non seulement il faut restaurer ce moins 1 800 000, mais avoir encore la marge. Nous ne sommes pas du tout partants pour refaire une marge d'épargne nette à la hauteur de celle qui était présente en 2021. Nous sommes en responsabilité, nous savons les efforts et nous ne demandons pas d'aller jusqu'à ce niveau-là. Mais il faut suffisamment que nous en ayons pour pouvoir parer les coups durs. Et je ne vous fais pas de dessin, Monsieur Dos Santos. J'espère que les événements vont se calmer, mais que quand même, depuis le début de ce mandat, nous voyons bien que année après année, la situation se dégrade et qu'il y a des coups durs auxquels il faut que nous fassions face absolument. Voilà. Je laisse Monsieur Gourlan poursuivre.
Alors, sur le sujet de la restauration de nos épargnes, comme vient de le dire Madame le maire, 700 000 euros d'épargne nette à fin d'exercice 2022 nous oblige à réagir. Vous avez vu que la croissance des charges de caractère général, on passe de 2,3 millions d'euros à 4 millions d'euros entre 22 et 23. Ce qui se passe, c'est que le premier effet, c'est que si notre épargne nette est négative, donc on prend de 3 moins 4, ça fait 1,7 million d'euros de charges supplémentaires. Ça veut dire qu'on passerait de plus 700 000 euros à moins 1 million. On est en cessation de paiement à ce moment-là. Ça veut dire qu'on n'est pas en situation de rembourser notre dette et c'est la mise sous tutelle immédiate. Donc ça, ce n'est pas possible. On est tous en responsabilité ici. On a peut-être des sensibilités différentes, mais en tout cas, notre responsabilité d'élu, c'est à minima, parce que le code général des collectivités territoriales l'impose, d'avoir un budget à l'équilibre. Maintenant, vous pourriez en résorquer, très bien, mais dans ce cas-là, on monte à 1 million d'euros. On fait juste qu'équilibrer et puis on attend. Sauf que là, c'est un effet absolument délétère. Pourquoi ? C'est que les investissements que nous avons programmés, ceux qui sont déjà engagés, l'éclairbois, l'école Foch-Gambetta, la rénovation de l'éclairage public, sont financés pour partie par emprunt. Vous avez vu, 6,6 millions d'euros. Les organismes prêteurs, les banques, vont regarder la construction de notre budget 2023 et les épargnes qu'on prévoit de dégager. Si nous présentons un budget avec une épargne nette à zéro, nous avons zéro prêteur. Les banques vont nous dire « on ne vous prête rien ». Ça veut dire que l'ensemble des plans d'investissement que nous avons déjà engagés, on sera obligé de les stopper. C'est-à-dire que les entreprises qui ont commencé à travailler pour nous vont devoir arrêter le chantier en plein milieu. Donc déjà, on ne soutient pas l'économie. Et puis deuxièmement, vous imaginez le coût de reprise de ces travaux, parce que quoi qu'il arrive, Claye Clairbois et Franche-Gambetta, si ça s'arrête cette année, il faut le reprendre l'année prochaine. Donc en termes de vision financière et budgétaire, ça va à l'envers. C'est-à-dire que ça va nous coûter beaucoup plus cher d'arrêter que de poursuivre. Or, si on n'a pas une épargne nette positive, on n'a pas d'emprunt. Et si on n'a pas d'emprunt, on ne peut plus financer l'investissement. Donc c'est une sorte, si vous voulez, de cercle vicieux qui se met en route. Sans, à ceci près en plus que les investissements tels que nous les avons programmés sont des investissements qui sont vertueux en termes d'économie d'énergie, vertueux en termes d'empreinte carbone. Donc c'est pour ça que nous faisons ce choix. Nous avons fait le choix, Madame le maire a fait le choix de décaler, de pas supprimer, décaler dans le temps les investissements qui n'étaient pas engagés, qui ne nécessitaient pas une urgence, mais nous avons maintenu par volonté politique une urgence sur le thème des investissements qui sont producteurs d'économie d'énergie et donc d'économie de coûts de fait. Donc, de se dire que finalement on pourrait étaler sur 3 ans, eh bien, ça aurait comme conséquence, 1, de perdre nos investisseurs, 2, de passer un signal d'alerte au niveau de la Chambre régionale des comptes sur le ratio, et puis 3, de simplement ne plus avoir les moyens d'investir. Donc c'est ce que nous ne voulons pas, et c'est pour ça que nous sommes tout à fait prêts à l'assumer, et voilà ce qui va se passer. Alors après, je me retourne vers vous, Monsieur Dos Santos, pour vous dire que, je vais parler pour moi là, mais effectivement, au moment où on travaille avec les services financiers, ces ensembles ratios, je vous assure que quand on se dit qu'on passe, on fait plus 6,78% 6,78 points sur le foncier bâti, c'est pas de gaieté de cœur, mais vraiment pas. Mais tout simplement, il faut se dire que on est là pour préparer l'avenir. C'est notre rôle de pouvoir équilibrer ces financements-là, et que les réformes que l'État a choisies, c'est-à-dire la disparition de la taxe d'habitation, fait que pour 40% de nos foyers, je l'évoquais tout à l'heure, cette année, ils vont connaître une disparition définitive de la taxe d'habitation. Ça veut dire que l'enveloppe globale de la fiscalité locale qui pèse sur les ménages, certes, va être augmentée par les choix de responsabilité que nous prenons, mais qui ne va quand même sur l'enveloppe générale par rapport à, en se comparant par rapport à il y a 2 ans, ne va pas en tout cas mettre nos rambolitains dans une situation extrêmement compliquée. C'est vrai que c'est une augmentation, mais dans le contexte que nous vivons, je pense tout à fait absolument. En tout cas, c'est le choix de responsabilité que nous faisons.
J'entends très bien ce que vous dites, mais alors pourquoi, alors question très précise, pourquoi ne pas faire peser autant la taxe sur les propriétaires de logements secondaires ? Parce que j'ai constaté qu'elle était 2 fois moins importante, donc pourquoi ne pas faire peser autant, si ce n'est plus, oui, la taxe sur eux que sur les propriétaires
Alors, l'orientation que nous prenons, c'est ce qu'on appelle une variation proportionnelle des taux. Ça veut dire qu'on fait bouger en proportion tous les taux de la même façon. La base fiscale des taxes d'habitation des résidences secondaires sur notre commune est extrêmement faible. Pour faire simple, nous avons très peu de résidences secondaires sur Rambouillet-Ville. Ça veut dire que si on voulait agir sur ce taux, vous devenez complètement prohibitif sur l'imposition de ceux qui sont en résidence secondaire. Et en plus, on est quand même bloqué parce que l'État, par le liaison des taux, nous interdit de monter le taux de taxe d'habitation de manière plus forte que la taxe foncière bâtie. Donc on n'a pas le droit de monter plus fort le taxe d'habitation que le foncier bâti. Donc on est obligé de les monter à due proportion. Mais de toute façon, la recette produite par la taxe d'habitation de résidence secondaire est beaucoup trop faible. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas d'assumer la responsabilité d'équilibrage du budget de fonctionnement. Donc c'est pour ça que nous sommes partis sur une variation proportionnelle des taux tels qu'elle a été présentée. Le volume de recettes engendré par la taxe d'habitation des résidences secondaires est très faible sur notre commune.
D'autre part, Monsieur Dos Santos, donc vous l'avez entendu, il n'est pas question de remettre en cause les investissements prévus, tels que la maison de quartier du Bel Air, le pôle polyvalent de la Louvière, ou même la réhabilitation de la place de l'Europe, juste les déplacer dans le temps. Il est évident que nous n'allons pas gommer le travail fait déjà par nos services, les études qui ont été faites, et il n'est pas question de tout à coup, parce que ça nous arrangerait, dire qu'il n'y en a pas besoin. Nous savons les besoins que représentent ces équipements-là, mais nous les faisons en décalé.
Alors, je comprends tout à fait qu'il y ait des arbitrages à faire. Ça, vraiment, je ne le nie pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je remarque pour le coup que l'arbitrage s'est fait sur 2 projets pour les jeunes, en l'occurrence. Et ce sont donc ces deux projets qui sont passés à la trappe, malheureusement, par rapport à d'autres.
Alors, il y a d'autres projets qui sont en cours et qui sont pour les jeunes aussi. Hein. On prend le Clay et Clairbois. Je vous rappelle que c'est un projet pour les jeunes. Les écoles, nous avons bien dit que nous préservions le plan école. Là encore, nous faisons pour les jeunes. Et nous préservons aussi le budget participatif. Et nous voyons aussi qu'il y a des jeunes qui participent. Donc, nous ne sommes pas là pour... mettre plus de côté une génération. Attention, Monsieur Dos Santos, de ne pas faire un amalgame sur le fait que nous serions plus prêts à favoriser une catégorie de personnes qu'une autre. Non, nous faisons en sorte de ne pas démarrer tout simplement des projets qui ne sont pas encore démarrés. Là encore, c'est en termes de responsabilité que nous prenons cette décision. Sans les annuler. Monsieur Schmitt.
Petit point pour surtout qu'on ne se trompe pas. Je veux dire, aussi, nous sommes responsables. On a aussi chacun, les uns et les autres, dans nos activités diverses et variées et professionnelles, est amené à gérer ce type de situation. Mais il est quand même de notre fait et de notre rôle que d'étudier toutes les pistes et tous les scénarios qui feraient que l'on pourrait à la fois préparer l'avenir, comme vous voulez, okay, à la fois répondre à toutes les contraintes qui sont celles des augmentations des énergies, faire en sorte aussi que cette augmentation soit la moins brutale possible pour les Rambolitaines et les Rambolitains. Voilà, ça, c'est une attitude plutôt responsable. Mais, en tout cas, nous ne sommes pas les empêcheurs de tourner en rond. Notre rôle, c'est de poser et d'étudier toutes les pistes, tous les scénarios. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a étudié, on reviendra effectivement dans un voie pour le vote. En tout cas, au nom du groupe, nous tenions aussi à saluer, comment dirais-je, les efforts qui ont été faits par les cadres et puis l'ensemble du personnel, les agents territoriaux, l'ensemble des personnels de la mairie, parce que nous savons pertinemment, pour pratiquer ce type d'exercice aussi, que l'effort n'a pas dû être simple. C'est à la fois garder les mêmes qualités de prestations avec des réductions de budget. On sait qu'arrivé à un moment donné, quand on commence à gratter l'os, excusez-moi l'expression, mais ça devient un petit peu compliqué, quoi. Donc nous aussi, au nom du groupe, nous tenons à saluer, je veux dire, les efforts qui sont faits au quotidien, mais qui ont été faits aussi tout particulièrement par rapport à l'effort que vous leur avez, je veux dire, demandé. Et concernant les indemnités, sachez en toute responsabilité qu'il n'y a aucune provocation de notre part, mais tout simplement dans un contexte aussi, je veux dire, complexe que le nôtre, aussi tendu. Voilà, il nous a semblé que d'envoyer un message à la fois vis-à-vis des Rambolitains, mais aussi et surtout peut-être vis-à-vis du personnel qui fait des efforts au quotidien, de leur dire que nous aussi, voilà, on est à peu près, enfin nous ne sommes pas à peu près, nous sommes tous dans la même galère et on doit se comporter en gens responsables et on prendra des décisions qui feront, comment dire, en sorte qu'on enverra des messages à la fois aussi de solidarité, sachant bien sûr que notre message, il a... Et vu le montant de nos indemnités, l'impact, il nous impacte tous d'une manière légèrement différente. Mais il n'y a aucune pression, je veux dire. Dernier petit point, j'ai vu dans les documents que cette augmentation était faite aussi en sorte pour qu'il n'y en ait pas. Ça me paraît compliqué d'avancer aujourd'hui, en 2023, qu'il n'y en ait pas, parce que là, je dois avouer que pour vous, ça n'a pas été facile. Parce que les dates, tout le monde va s'en souvenir. 2020, Covid. 2021, quand on a eu le Covid. 2022, un peu compliqué. L'Ukraine, excusez-moi, le conflit, la guerre en Ukraine. 2023, l'inflation. Donc, d'imaginer ce soir qu'il n'y aura pas d'autres augmentations, moi, je ne suis pas capable de je veux dire, excusez-moi, mais sur un plan professionnel, moi, je fais des budgets, je le dis bien. À qui de droit, c'est avec les données que je connais aujourd'hui. Hein. Je suis incapable de dire ce qui va se passer en 2024, encore 2026, et encore 2026. Donc simplement d'expliquer aussi que l'augmentation va être importante en 2023 pour éviter qu'il y en ait jusqu'à la fin du mandat, me paraît, je veux dire, ambitieux. Mais pour ma part, moi je ferais plutôt prudence, je veux dire, d'une prudence de Sioux. C'est qu'aujourd'hui, aux éléments que l'on a, vous demandez d'augmentation telle que vous l'avez demandé, mais de là à dire qu'effectivement il n'y aura pas d'augmentation jusqu'à la fin de ça me paraît, je veux dire, un petit peu risqué, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je voulais vous dire.
Deux réponses très courtes sur les aspects de fonctionnement généraux, hein, des équilibres, ratios et autres. Je vous invite vraiment à venir la prochaine commission des finances, parce que c'est à ces moments-là où on peut commencer à regarder, plus qu'en séance de conseil municipal, comment fonctionnent ces ratios, comment ils s'articulent et comment donner des éléments quantitatifs aux propos que j'ai tenus. Ça veut dire, en vous disant, Monsieur Dos Santos, que d'étaler ça sur 3 ans, nous met dans une zone rouge. Voilà, donc prenez le temps de venir en commission et vous verrez qu'on pourra l'étudier. Et sur votre deuxième propos...
Je ne fais pas partie de la commission.
Non, mais quand je dis vous, c'est vous, oui, votre groupe. Hein, voilà. Sur la partie prospective, moi je vous rejoins, Monsieur Schmitt. Là, tel que nous construisons une prospective, c'est, on va dire, toutes choses égales par ailleurs. Je n'ai pas plus de boule de cristal que vous. Ce n'est pas un engagement formel qu'on prend devant le conseil municipal en mettant zéro sur les années suivantes. On vous dit juste que pour l'instant, dans le contexte dans lequel nous sommes, si les choses sont dans les perspectives raisonnables que nous prenons, et d'ailleurs on n'est pas les seuls à les prendre, où toutes les collectivités se disent « bon, voilà à peu près où on est », on se dit que si il n'y a pas un deuxième coup de Trafalgar ou un troisième coup de Trafalgar, ça devrait se passer comme ça. Mais voilà, moi non plus, je ne m'engagerai jamais pour vous dire, et Mme le maire vient de le rappeler, de se dire qu'on est certain que non. Si, je vous rassure, je ne suis pas devin.
Monsieur Bernard.
Oui. D'abord, je n'ai pas compris, mais on acte ce soir, on ne vote pas. C'est un vote.
Oui, tout à fait. Ce soir, c'est on acte le fait qu'il y a eu la présentation du rapport d'orientation budgétaire et
le
débat.
Le vote sera
tout à fait
le mois prochain. Alors, nous, on regrette qu'à cause d'une crise internationale, nous arrivions à la décision de resserrer les budgets pour prendre en compte principalement l'énergie et son coût. Nous comprenons que nous devons avoir une politique énergétique que nous revendiquions afin que cela ait moins de conséquences financières sur le budget de la ville. Nous sommes dans une crise climatique. Je suis content d'ailleurs de voir qu'on conserve des budgets au niveau de la végétalisation parce que c'est un des problèmes qui va apparaître aussi. Nous devons ajouter à la réflexion sur notre futur la prise en compte des périodes de canicule, de sécheresse, donc de manque d'eau. La transition écologique dans certaines communes de France est déjà adoptée au quotidien depuis des décennies. Nous devons rattraper notre retard sur cette problématique qui est déjà engagée. Nous demandons à être consultés sur les orientations qui vont être prises afin d'apporter notre concours au mieux-être des Rambolitains. Alors, il n'y a pas que des glissements de projets. J'ai vu qu'il y avait des projets qui étaient complètement annulés. La mairie, la place de la Libération, c'est totalement annulé. On a eu une réunion primaire au niveau des chefs de groupe que vous avez rencontrés. Donc, nous, on a fait un bilan de ce que vous nous aviez exprimé, qui est le résultat de ce que vous présentez ce soir. On regrette profondément qu'on n'ait pas pris en considération l'empreinte énergétique au niveau de la ville depuis des décennies. Et plein de communes en France ont fait ce genre de choses. On aurait pu déjà minimiser au niveau de nos budgets des coûts énergétiques par les changements de chaudière, par des isolations. On a quand même beaucoup de bâtiments municipaux et il est clair que pour nous, il faut continuer à avoir des budgets cohérents d'entretien de ces bâtiments pour diminuer notre impact de façon à ce qu'on puisse obtenir derrière des financements sur des projets. Si on avait été à la tête de la mairie, on aurait subi les mêmes problèmes que vous. Nous n'aurions pas les mêmes projets, forcément, mais en tous les cas, nous aurions été dans les mêmes problématiques. Donc on comprend les difficultés qui sont présentées aujourd'hui. On comprend qu'il y a des projets importants. Le pôle culturel de la Louvière, bien évidemment, est important aujourd'hui. Beaucoup d'associations, d'écoles, d'instituts ne peuvent plus faire leur spectacle parce qu'il n'y a plus de lieu réellement. Il y a simplement le mois de juin à la lanterne qui est pris par le conservatoire et ainsi de suite. Donc on sent qu'il y a déjà véritablement aujourd'hui des difficultés au niveau de la ville de Rambouillet pour pouvoir organiser des choses. Donc il faut que ces projets restent. Quartier du Bel Air, oui, il y a bien évidemment un projet important, c'est de la vie de quartier et c'est la possibilité de le faire. Donc je considère que c'est important que ces projets ne soient pas remis en question, mais soient prolongés. Mais il est clair qu'il faut que la ville s'engage véritablement aujourd'hui sur une volonté claire et précise, sur une amélioration de notre empreinte énergétique, sur les difficultés qu'on va rencontrer demain aussi avec les canicules, avec l'eau. On va avoir ces problématiques qui vont apparaître. Donc il va falloir prendre en considération ces aspects-là au niveau des écoles et ainsi de suite. On en a discuté sur le pôle culturel de la Louvière. Il faudra que les eaux de pluie soient utilisées pour les toilettes et ainsi de suite. Ça paraît comme ça incohérent, mais il y a des communes qui, depuis 20 ans, font ce genre de choses. Et aujourd'hui, ils font des économies substantielles en équipant leur gymnase de panneaux photovoltaïques et ainsi de suite. Donc, on comprend la difficulté. Si on était à la tête de la mairie, on aurait exactement les mêmes problématiques. Et donc, il faudrait peut-être... Il n'y a plus qu'un seul axe sur lequel on peut jouer aujourd'hui, c'est le fait de jouer sur le peu qui nous reste, qui sont les taxes, simplement sur le bâti, hors bâti, et voilà. Donc, il n'y a plus trop d'autres solutions. Il est clair aussi que, pour continuer les projets, il y aura de l'emprunt. Mais attention, cet emprunt aujourd'hui, quoi, les taux augmentent, même si, a priori, ils sont assez protégés, en espérant profondément qu'on aura des taux très protégés, mais ils sont en évolution et que plus le temps s'écoulera, et on ne sait pas ce que sera l'avenir. Quand je vois ce qui s'est passé en Ukraine aujourd'hui de la part de la Russie, je me demande vraiment ce qui va se passer demain. Donc, attention, là aussi, on a une dette. Il y a très peu, a priori, de taux variables au niveau de cette dette. Ils ont été bloqués, mais on a quand même des emprunts aujourd'hui à 5,80, donc déjà des taux très élevés, donc ça pèse, avec des montants assez élevés en face, hein, d'ailleurs. Donc attention aussi là, sur cette évolution. Est-ce qu'on est susceptible de pouvoir redémarrer en 24, en 25 ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il est clair que... Il y a eu cette volonté de réduire les coûts, je rejoins, hein. Les services ont fait des efforts monstrueux pour essayer de réduire leurs coûts et leur empreinte, en espérant bien évidemment que tous les services soient bien rendus. Vous faites glisser, j'ai vu, à travers le personnel des fonctionnaires vers des contractuels, c'est pour pouvoir gérer cette masse salariale qui est compliquée. Nous, on ne fait pas... Voilà, on considère qu'on est véritablement dans une situation que personne ne maîtrise, qu'on aurait été confronté au même problème. On est très concerné par le climat, on est très concerné par cette empreinte qui, elle aussi, va avoir un impact très majeur sur l'ensemble de la France et du monde. Donc, on est complètement en accord avec les situations que vous rencontrez et les solutions que vous admettez par rapport à vos projets. Mais on surveille. Et on aimerait, s'il y a des évolutions, qu'on soit un peu plus inclus dans les paroles de l'opposition sur ces sujets.
Merci, Monsieur Bernard. Nous en tenons compte. Alors, vous dire plusieurs choses. En effet, vous dites la mairie a disparu des projets et la place de la mairie aussi. Vous l'avez vu, le PPI présenté va jusqu'en 2026. Je ne vous explique pas pourquoi il ne va pas au-delà de 2026.
Ben, je comprends, mais voilà.
Mais
sur cette mandature-là, il n'est plus là.
Ça n'est plus parce que c'était en bout de mandature et que forcément, en glissant, il y a les choses qui sortent.
On ne sait pas ce que sera 2026.
Voilà, de ce plan pluriannuel d'investissement. Vous dire que par rapport à ce que vous disiez sur l'énergie, sur la responsabilité de faire les travaux nécessaires, je vous le dis parce que je l'ai connu sur le mandat précédent en tant qu'élue aux écoles, les changements de chaudière ont eu lieu et ont eu lieu dans toutes les écoles et que ça avait déjà été fait. Rappelez qu'en début de ce mandat, il y a un plan de réhabilitation d'école, celui d'Arbouville, qui n'était pas prévu. Et nous avons pris une possibilité de subvention au bon, si je puis dire, et que nous en avons profité pour permettre cette réhabilitation énergétique de l'école d'Arbouville, qui, encore une fois, n'était pas prévue au départ. Vous dire également que nous avons... Nous continuons la réhabilitation. Alors, on parle de réhabilitation énergétique malgré tout sur la toiture de Gambetta, parce que faire des travaux de toiture, c'est déjà baisser un petit peu les impacts. Mais nous sommes sur un vieux bâtiment et vous imaginez bien que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. Nous l'assumons Mais pour que vous le sachiez quand même, parce que je pense que c'est important, et puis nos internautes qui nous suivent et le public ici présent doit le savoir, ces travaux qui sont à hauteur de 3 millions et pour lesquels nous avons fait des dossiers de subventions importants et les services se sont attelés à la tâche. Et Dieu sait si remplir des dossiers de subvention est une chose longue, parce qu'il y a souvent 50 pages à remplir et il y a à peu près 2 semaines. Hein, les appels à subvention durent de manière très brève. Eh bien, là où on nous avait annoncé 1,5 million en capacité de subvention, nous avons obtenu 300 000 euros de subvention. Et ça n'est pas pour ça que nous n'avons pas continué, que nous n'avons pas engagé ces travaux-là. Donc voilà, vous dire qu'en effet, ça, ce sont des choses importantes. Et puis vous rappeler que certes, il y a des projets qui glissent, mais que entre les projets qui glissent et les projets qui sont déjà démarrés comme le CLAE, nous avons également mis en place un projet qui n'est pas des moindres, celui de l'éclairage public et pour lequel nous allons avoir des délibérations à venir. Et que là encore, c'est aussi un acte en responsabilité que de dégager un peu en glissant certains projets et de dégager des budgets qui nous permettent d'investir dans cette réhabilitation totale de l'éclairage public qui, là aussi, va forcément nous générer des économies d'énergie. Et d'ailleurs, ça n'est pas par hasard que nous vous présenterons tout à l'heure l'intracting par lequel nous allons pouvoir aussi avoir un financement pour cette opération, parce que les certificats d'économie d'énergie vont pouvoir nous aider, en effet, au remboursement. Et puis, non seulement nous allons faire des économies d'énergie, mais en plus, nous allons travailler aussi sur l'environnement et sur la pollution lumineuse nocturne. Donc voilà, il y a des choses qui se sont mises en place. Et oui, nous l'assumons et nous l'avons travaillé au moment des arbitrages budgétaires. Et les services techniques travaillent énormément sur les investissements qui sont vraiment très principalement orientés vers tout ce qui concerne les économies d'énergie, des travaux qui vont concerner, bien sûr, les écoles, parce que ce sont quand même les bâtiments qui sont les plus utilisés, avec des changements de radiateurs, des mises de thermostats, des modifications d'éclairage, avec la mise en place de LED, etc. C'est vraiment la volonté de travailler dans ce sens-là, sur tous les investissements que nous allons pouvoir faire tout au long de cette année. Donc voilà, en effet, merci de constater qu'en effet, quoi qu'il arrive, nous subissons, et nous subissons de façon nationale, voire internationale, cette crise, mais qu'il y a des moments où, en effet, il faut prendre des décisions, et malheureusement, des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Et j'avoue que nous avons freiné, j'ai beaucoup freiné les services, et c'est la raison aussi pour laquelle ils ont énormément travaillé, parce que les efforts qui sont demandés là aujourd'hui sont vraiment les efforts calculés, je ne vais pas dire au centime près, mais vraiment pour impacter le moins possible le contribuable rambolitain. Voilà.
Un petit complément, Madame le maire, juste pour Monsieur Bernard sur le sujet de l'emprunt et de la dette. C'est un des ratios de pilotage, la capacité de désendettement qui nous permet de vérifier la soutenabilité de la dette sur de manière pluriannuelle. C'est un des indicateurs majeurs et donc effectivement le volume d'emprunt que nous prévoyons cette année sera parfaitement sécurisé en termes de construction du taux. On va prendre probablement de l'emprunt à taux fixe, on verra à quel taux et on le verra en commission, mais introduire une part de taux variable a des vertus, donc il faut qu'on quantifie tout ça. Mais sachez que le niveau d'endettement est totalement sous contrôle, puisque c'est ce qu'on fait depuis des années, et ce qui nous permet en une année de restaurer les ratios. Hein. Donc voilà, il faut bien prendre en considération ça.
Monsieur Petitpré avait des éléments à ajouter.
Oui, à propos de la transition énergétique, monsieur Bernard, vous avez dit qu'on n'avait pas fait grand-chose sur les mandats précédents, et en particulier sur les investissements au niveau des bâtiments, des investissements au niveau des gymnases. Je voudrais simplement rappeler plusieurs choses. D'abord, à propos de transition énergétique, nous avons favorisé l'introduction de méthanisation agricole par une injection dans le réseau de Rambouillet ces dernières années. Vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous étiez au dernier conseil communautaire, que nous avons signé une convention pour réinjecter du gaz fabriqué à l'usine d'incinération dans le réseau de Rambouillet, que par ailleurs, nous travaillons avec le syndicat d'énergie des Yvelines pour installer des installations photovoltaïques sur la commune. Donc c'est dans le bloc communal, les syndicats, et donc c'est aussi des actions que nous faisons et qui ne sont pas relatées forcément ici. Nous travaillons effectivement sur deux gros projets photovoltaïques. Donc nous engageons un certain nombre d'améliorations. Ces photovoltaïques qui ne se posent pas n'importe où. Un vieux gymnase n'est pas toujours habilité sur ses toitures à supporter les poids de ces éléments, mais nous travaillons pour pouvoir, quand cela est possible, évoluer vers ce genre de choses. Donc aujourd'hui, dire que nous faisons, qu'il n'a rien été fait et que nous ne faisons rien en termes de transition énergétique, certes, ce n'est pas suffisant, mais il y a quand même des choses essentielles qui ont été faites et qui sont en cours sur la ville. Et je ne suis pas exhaustif dans les actions que nous faisons aujourd'hui, en particulier avec l'agglo et en particulier avec les syndicats.
Monsieur Jutier.
Oui, merci beaucoup. Effectivement, la situation financière, elle est très, très difficile. C'est un coup dur qui impacte toutes les collectivités territoriales, mais pas que les collectivités territoriales. Et là, je pense en particulier à deux structures pour lesquelles vous nous avez proposé des subventions qui sont les mêmes que l'année dernière, mais qui sont aussi les mêmes que les années précédentes. Je pense au CCAS et à la MJC Centre Social, l'usine à chapeau. Et ces deux structures étaient déjà impactées par les faibles taux d'inflation des années précédentes avec des subventions qui n'évoluaient pas. Cette fois-ci, ça n'évolue pas non plus. Et donc, en euros constants, ça aurait été, je pense, intéressant que notre municipalité, qui va demander un effort important aux habitantes et habitantes de Rambouillet et encore à venir sur les services, puisque vous avez annoncé que très certainement les tarifs des services municipaux allaient être aussi impactés par les hausses pour répercuter le prix de l'énergie. Il y a un effort qui soit fait et qu'une partie de ces recettes qui vont être perçues par la ville de Rambouillet servent au minima à compenser le surcoût inflationniste que subissent ces deux structures. Est-ce que vous avez réfléchi à cette éventualité? Comment est-ce que ces structures qui sont importantes pour l'effort de solidarité de notre ville vont pouvoir être soutenues en cette période difficile?
Alors, bien sûr, Monsieur Jutier, tout cela s'est fait en parfaite harmonie avec les structures indiquées, la MJC Usine à Chapeau et le CCAS. En ce qui concerne le CCAS, certes, nous restons à ISO subvention, mais nous l'avons dit et redit, et nous l'avons dit d'ailleurs sur le dernier conseil d'administration, il est évident que s'il devait y avoir plus de dépenses et plus de besoins, nous nous donnons aussi la possibilité, nous, et nous avons dans notre budget, la possibilité de pouvoir abonder de façon supplémentaire le budget. Si nous restons à iso-budget, c'est aussi parce que le budget n'a pas été consommé dans son intégralité l'année dernière. Donc c'est vraiment un travail qui a été fait en amont avec le CCAS. Sur la MJC Usine à Chapeau, les choses ont été travaillées également. Pourquoi nous restons sur une subvention identique? C'est aussi parce que la MJC, puisque nous subventionnons la MJC, nous fournit ses comptes, la MJC a aussi des réserves. Et que par conséquent, évidemment, nous leur avons demandé non pas de faire un effort, nous aurions pu, au vu des réserves, nous aurions pu leur demander de faire l'effort de moins 10% au même titre que les services. Nous n'avons pas demandé, malgré tout, à la MJC Usine à Chapeau de faire cet effort de 10%. Nous restons à la subvention identique, sachant qu'ils ont des marges malgré tout.
Juste pour la MJC, rajouter quelque chose. Effectivement, nous n'avons pas augmenté le budget entre 2022 et 2023, mais entre 2021 et 2022, nous l'avions augmenté. Hein ? Et puis, il ne faut surtout pas oublier non plus que la MJC occupe des locaux qui sont entretenus complètement par la ville. Hein, il y a tous les locaux de l'usine à chapeau, mais ils sont aussi à Smart City et nous prenons en charge tous les loyers, tous les fluides. Donc c'est quand même des avantages extrêmement importants avec notamment l'augmentation du coût de l'énergie.
Hein. Et pour compléter et terminer le propos, il faut savoir que l'année Covid, nous avons fait le choix de verser la totalité des subventions à toutes les associations et il s'avère que par le truchement en fait, un certain nombre d'éléments qui n'ont pas pu être mis en œuvre par la MJC. Le résultat post-Covid a permis d'avoir une trésorerie qui a doublé entre post-pré-Covid, post-Covid, tout simplement parce que nous avons versé la totalité de la subvention, alors que le niveau de dépenses a été bien inférieur à ce qui était prévu. Donc en fait, on a comme un accord, et la MJC a très bien compris, le maintien de la subvention au montant de l'année antérieure est en fait une bonification que nous faisons par rapport aux efforts qu'on a demandés par ailleurs et à ce niveau de résultat qu'on a tous partagé. Hein, voilà. On a plus d'une année d'avance de résultats.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Alors, puisque je n'en vois pas, je vais porter au vote, et je passe bien au vote, le fait de prendre acte de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023 sur le budget principal. Alors, je suis obligée de dire qui est pour, mais en fait, c'est un peu ridicule puisque c'est juste une prise d'acte. Hein. Donc, voilà. Mais qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci infiniment pour ce vote et nous reviendrons donc vers vous. Et merci pour ces échanges qui sont de toute façon toujours constructifs et qui permettent aussi, puisque nous sommes en direct là sur Facebook et que nous avons du public, d'éclaircir aussi la façon dont nous montons ce budget.